Bonjour, ravi de vous retrouver pour notre voyage au cœur de 7 jours d'actualité avec les reportages de la rédaction.
Une semaine d'actualité, Pierre-Edouard Deldic.
Il sera évidemment question de l'Afrique tout à l'heure. Nous reviendrons aussi sur l'essentiel de l'actualité en France et nous allons commencer avec les grands titres de l'actualité internationale. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur l'application RFI Pure Radio et sur notre site www.rfi.fr. Cette semaine, nous sommes en compagnie de Yann Mince, journaliste au magazine Alternative Économique, spécialiste des questions internationales. Notre ami est Yann Mince. Bonjour Yann.
Bonjour.
De retour, mais c'est la première fois dans cette nouvelle formule de l'émission.
Absolument.
Qui offre plus de 3 minutes supplémentaires de commentaires.
3 minutes en plus.
Ou de reportage. Alors dans l'actualité internationale, on va commencer tout de suite parce que le programme est chargé. Et il y a l'ouverture d'un téléphone rouge entre les deux Corées. On l'a appris hier vendredi, voilà une bonne nouvelle. Non,
c'est une très bonne nouvelle, j'espère même qu'il y en aura un qui s'ouvrira bientôt entre la Corée du Nord et les États-Unis, parce qu'on a vu cet été avec les déclarations tonitruantes et de Trump et de Kim Jong-un, le leader nord-coréen, qu'on pouvait assez vite monter au moins verbalement aux extrêmes. Il faudrait éviter de monter aux extrêmes avec des armes, surtout des armes de destruction massive. Donc s'il y avait un téléphone aussi bientôt à l'issue du prochain sommet qu'on nous annonce entre Trump et le leader nord-coréen, ce serait très bien.
Alors continuons ce numéro d'une semaine d'actualité avec la fin d'une époque à Cuba, la fin de l'ère Castro qui a commencé en 1959. Et l'arrivée au pouvoir d'un nouveau venu, enfin un nouveau venu, c'est quand même un apparatchik du Parti communiste, il s'appelle Miguel Díaz-Canel, à La Havane, Romain Lemaresquier, jeudi.
Lorsque vous demandez aux Cubains s'ils connaissent celui qui va désormais occuper le poste de président de la République, vous vous apercevez tout de suite de ceux qui lisent ou pas la presse officielle. À La Havane, ils sont nombreux, vous récitez sa biographie au mot près. Michel, jeune père de 4 enfants, en fait partie, mais lui connaît d'autres personnes qui ont travaillé avec Miguel Díaz-Canel.
Alors on a encore...
Je ne le connais pas personnellement, mais j'ai des références sur lui lorsqu'il était ministre de l'éducation supérieure. C'était une personne plutôt loquace qui s'entendait bien avec tout le monde. Et ça, c'est une chose importante ici.
Miguel Díaz-Canel représente une nouvelle génération de dirigeants cubains, une génération qui n'a pas connu la révolution, ce qui est un atout selon Pablo Longuera, vendeur à la sauvette dans les rues de La Havane.
On dit que Miguel Díaz-Canel est un grand homme. Le peuple de Villa Clara l'aime beaucoup. Je ne peux pas vous dire qu'il a mauvaise réputation. C'est un homme jeune, un jeune qui a fait carrière. Ce n'est pas comme nos anciens dirigeants qui venaient de la montagne. Il faut faire place aux jeunes.
Les habitants de La Havane n'osent pas critiquer celui qui va désormais occuper la présidence, mais certains tout de même se rappellent d'une anecdote qui les a marqués, comme le détaille Pablo Morales Machado, chômeur âgé de 50 ans.
Il est venu ici au théâtre Alicia Alonso avec sa femme et ses enfants. Le peuple l'a salué, mais lui ne lui a pas prêté la moindre attention. On sait très bien qu'il a été parachuté à ce poste. Ce n'est qu'une marionnette.
Miguel Díaz-Canel va devoir convaincre ses compatriotes, car les Cubains ne feront pas preuve de patience avec un homme qui n'est pas une figure historique de la Révolution. Une tâche qui s'annonce complexe lorsqu'on sait que le président va devoir suivre des directives dictées par le Parti communiste cubain.
Yann Mince, le changement dans la continuité en quelque sorte ?
Plutôt la continuité dans le changement, je pense, parce que effectivement, pour l'instant, on a quelqu'un qui, dans ses déclarations en tout cas, entend rester tout à fait fidèle à la ligne révolutionnaire incarnée par les frères Castro. Il faudra voir si cet homme-là, une fois qu'il aura les mains les plus libres, c'est-à-dire à partir de 2021, lorsque Raúl Castro ne sera plus le patron du Parti communiste, d'abord, est-ce que lui va le devenir ? Est-ce qu'il cumulera les fonctions ou est-ce qu'elles vont être séparées ? Qui prendra cette fonction-là ? Et si c'est lui, est-ce qu'il va devenir une espèce de Gorbatchev à la cubaine, c'est-à-dire qu'il va ouvrir le système ? Les dirigeants cubains ont très peur d'une version Gorbatchev, parce que la version Gorbatchev, ça veut dire la fin du système.
Mais il faut préciser que Raúl Castro demeure le chef du Parti communiste.
Jusqu'en 2021, ouais. Effectivement, après ce que Díaz-Canel aura les mains plus libres, et qu'est-ce qu'il voudra faire ? Pour l'instant, ce que j'entends de ses déclarations, c'est qu'il veut rassurer la vieille garde du parti, inquiète que rien ne va changer, que le Parti communiste va rester au pouvoir, qu'il n'y aura pas de contestation dans la rue, qu'il n'y aura pas de voie vers le capitalisme ONI, puisque visiblement toute référence au capitalisme est ONI. Donc ça, c'est la rhétorique pour l'instant. Est-ce que ses actes vont être différents ? Et surtout, est-ce qu'il va convaincre, éventuellement, s'il veut des changements, s'il veut un peu d'ouverture, est-ce qu'il va pouvoir convaincre la vieille garde que ces changements-là ne vont pas précipiter la fin du système ? Je pense que les Cubains, le Parti communiste cubain, est plus partisan de la voie chinoise que de la voie soviétique qui a fini par l'effondrement du système.
Ouais. Alors parlons de la Syrie maintenant, Yann Mince. Y a-t-il eu de nouveaux bombardements américains ou israéliens en Syrie ces derniers jours ? S'agit-il d'une fausse nouvelle ou pas ? À Beyrouth mardi, Paul Ralifet.
Un média militaire du Hezbollah affirme que 6 missiles ont visé dans la nuit de lundi à mardi l'aéroport militaire de Shu'ayrat, dans la province centrale de Homs. 3 autres missiles ont été tirés en direction de l'aérodrome de Dumayr, au nord de Damas. Ces 9 projectiles auraient été abattus par la défense antiaérienne avant d'atteindre leur but, précise le média du Hezbollah. Cette version des faits semble confirmée par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'ONG, basée en Grande-Bretagne, a fait état de fortes explosions entendues près des 2 bases aériennes, mais ajoute qu'aucun des sites n'a été touché. Après le démenti indirect du Pentagone, les regards se tournent vers Israël, surtout qu'une activité inhabituelle de l'aviation israélienne dans le ciel libanais a été confirmée lundi soir. Déjà, le 9 avril, l'aviation israélienne avait tiré plusieurs missiles contre la base aérienne T-4 dans le centre de la province de Homs. Au moins 7 militaires iraniens qui opèrent une flottille de drones stationnés dans cet aéroport avaient été tués. Lundi soir, le numéro 2 du Hezbollah, Naïm Qassem, avait qualifié la mort de ces soldats de meurtre délibéré qui ne restera pas sans riposte.
Lundi à Paris, les députés français ont eu un débat sans vote sur l'intervention française en Syrie dans la nuit de vendredi à samedi dernier avec les Américains et les Britanniques, Julien Chavanne.
Ce débat a été public, il a été libre, évidemment. Et il a été complet.
Si Édouard Philippe se félicite de ces 2 heures d'échange, l'opposition, elle, est ressortie frustrée de ce débat sans vote. Le Premier ministre a pourtant essayé de convaincre.
Notre riposte était amplement justifiée. Elle a été soigneusement proportionnée. Elle a été ciblée pour éviter les dommages aux civils. Nous avons ainsi envoyer un message ferme.
Il aurait été plus grave de ne rien faire, conclut le chef du gouvernement devant un hémicycle clairsemé. Au contraire, répond Christian Jacob. Pour le chef des députés Les Républicains, cette intervention est une occasion manquée.
Nous craignons que la France se soit encore un peu plus isolée dans cette région du monde où pourtant ses liens auraient dû lui permettre de jouer un rôle à la mesure de son histoire.
Jean-Luc Mélenchon s'inquiète, lui, d'une escalade militaire.
Nous sommes intervenus militairement dans le pire nid de frelons de la planète. Devons-nous considérer que bombarder 3 usines, ce n'est pas une déclaration de guerre et que par conséquent, à Pearl Harbor, ce n'est pas la guerre qui a commencé ?
Les Républicains, la France Insoumise et le Front National sur la même ligne pour dénoncer ces frappes. Quand les alliés de la majorité et les députés socialistes les soutiennent, ils sont en tout cas tous tombés d'accord pour espérer une relance des discussions de paix.
Alors une autre image sonore avant de vous retrouver, Yann Mince. Mercredi ont commencé les festivités qui commémorent le 70e anniversaire de l'État d'Israël, fondé, il faut le rappeler, donc en 1948 à Jérusalem, Guilhem Delta.
Les fusées des feux d'artifice illuminent le ciel de rouge, de jaune et de bleu. Un spectacle que Moshe est venu regarder en famille. Pour cet habitant de Jérusalem, il est essentiel de faire passer l'importance de cet anniversaire à ses enfants.
Son histoire rend ce pays spécial. C'est un petit pays qui a connu 70 ans de difficultés, mais aussi de bonnes choses. C'est un accomplissement. Et c'est pour ça que, vu d'où l'on vient, 70 ans, ça veut dire beaucoup.
C'est un achievement.
Beaucoup portent un drapeau israélien enroulé autour des épaules, des serre-têtes ou des casques gonflables bleus et blancs. Dima, arrivé de Russie il y a 27 ans, arbore fièrement les couleurs nationales.
My children, my wife.
Mes enfants, ma femme, nous avons tous le sentiment qu'il n'y a pas d'autre pays pour les juifs. Pas d'autre pays sûr si ce n'est Israël.
Except Israel.
Dans le centre-ville, les rues sont bondées et partout la musique bat son plein. Sur certains bâtiments, des images retraçant l'histoire du pays sont projetées. Sa création, ses accomplissements et ses victoires militaires. Mais Adi Abraham, elle, veut aussi se projeter vers l'avenir. Un avenir qu'elle espère harmonieux.
Nous pouvons tous vivre ensemble en paix. Nous devons juste le vouloir. Assez de haine, nous pouvons tous vivre ensemble, je le crois.
I believe in that.
Alors on va commencer avec l'anniversaire d'Israël. Yann Mince, vous avez entendu cette femme qui dit « nous pouvons tous vivre ensemble ». Pour l'instant, c'est pas vraiment le cas.
Non, c'est pas vraiment le cas.
Il y a eu encore des manifestations hier de Palestiniens.
Tout à fait, et Médecins Sans Frontières a publié hier un communiqué pour expliquer dans quel état se trouvaient, extrêmement grave, beaucoup plus grave que d'habitude, se trouvaient les blessés des manifestations qui ont été réprimées donc à la frontière entre la bande de Gaza et Israël.
Et qui font des morts.
Qui font des morts et des blessés extrêmement graves, ouais. Avec des blessures très compliquées à soigner et qui laisseront visiblement des séquelles très longtemps aux personnes qui en sont victimes. En ce qui concerne la coexistence entre l'État d'Israël et un État palestinien à venir, parce qu'on peut pas parler aujourd'hui d'un État palestinien, on peut juste parler d'une autorité palestinienne. Je pense que ça suppose notamment que les Israéliens n'aient pas l'impression qu'ils sont entourés par un océan hostile d'Israël, monde arabe. Je crois que, je ne dis pas qu'il n'y ait pas des gens hostiles à Israël dans le monde arabe, il y en a bien entendu. Mais je crois surtout que les Palestiniens sont très isolés dans le monde arabe aujourd'hui, quelle que soit la rhétorique des différents États arabes, quelles que soient les manifestations de soutien. En pratique, plus personne aujourd'hui dans le monde arabe ne veut faire la guerre contre Israël pour les Palestiniens. Ce qui veut dire que le face-à-face, si je puis dire, la confrontation et la négociation possible, elle doit se faire entre les Israéliens et les Palestiniens. Et je crois que les Israéliens ont du mal, pour des raisons qui sont en partie compréhensibles et en partie moins compréhensibles, à se faire à l'idée que le comportement de l'État d'Israël est injuste aujourd'hui vis-à-vis des Palestiniens, notamment à cause de l'occupation et des colonies. Bien entendu, il y a eu des erreurs du côté palestinien, et notamment les attentats qui, dans les années 2000, ont eu lieu dans les villes comme Tel Aviv ou Jérusalem, ce qui veut dire que alors qu'il y avait eu les accords d'Oslo 10 ans avant, ou 7 ans avant, les Israéliens ont eu le sentiment qu'on pouvait vraiment pas faire confiance à l'interlocuteur palestinien. Et je crois que du côté des Palestiniens, il y a le sentiment qu'on ne peut pas faire confiance à l'interlocuteur israélien, parce que le nombre de colonies et de colons n'a cessé d'augmenter depuis les accords de paix. Mais vraiment augmenté, je vais pas te dire le chiffre de bêtises de tête, mais je crois que c'est le double. Donc on est vraiment, ou au moins le double. On est donc dans des proportions qui sont extrêmement importantes. Et tant qu'on restera dans cette confrontation-là, à mon avis, quoi que dise cette israélienne, dont je ne doute pas de la sincérité, ce sera concrètement très très difficile.
Alors parlons de la Syrie, revenons sur le raid d'il y a une semaine, un raid américain, français et britannique. Alors 105 missiles tirés, 12 français et 8 britanniques, donc une opération essentiellement américaine. D'ailleurs il y a un auditeur qui s'appelle Kofi, qui nous écoute à Lomé, qui dit pourquoi croire plutôt les États-Unis que la Russie, donc il a l'air d'être sceptique. Quel regard avez-vous porté sur cette intervention? Était-elle justifiée selon vous?
Elle était, pour reprendre les termes d'Emmanuel Macron, elle était légitime, mais elle n'était pas légale. Quand je dis qu'elle était légitime, je veux dire que, clairement, enfin, il n'y a pas beaucoup de doutes. D'ailleurs, le comportement du régime syrien, de ses alliés russes, par rapport aux enquêtes d'inspection sur les armes chimiques le prouve. Ils n'ont pas arrêté ces derniers jours après leur aide d'empêcher les inspecteurs de l'IAC de venir inspecter le site. Donc, ça veut dire qu'ils sont en train d'essayer d'enlever les preuves. Ce que Emmanuel Macron a dit, c'est nos services, en gros, les services occidentaux, etc., avaient les preuves qu'il y a bien d'utilisation d'armes chimiques. Donc, de ce point de vue-là, il y a une violation des règles de droit international. L'intervention était légitime. En revanche, elle n'était pas légale. Pourquoi elle n'était pas légale? Parce que c'est, en principe, le Conseil de sécurité qui doit approuver ce genre d'intervention. Mais le problème, c'est que le Conseil de sécurité, ce n'est pas du tout le représentant de la communauté internationale, c'est un directoire de pays puissants, et dans ces 5 pays qui ont chacun un droit de veto, il y a la Russie qui est le principal allié.
12 vétos à ce jour.
Voilà. Ouais. Les vétos américains en soutien à Israël sont également très très importants. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que... quand on dit communauté internationale, en fait, c'est un terme qui, moi, m'agace, parce que Emmanuel Macron l'a utilisé souvent dans son interview de dimanche dernier. Pourquoi? Ça n'existe pas. Il y a une organisation de la communauté internationale, c'est les Nations Unies, avec les imperfections que je disais, les dysfonctionnements, et d'ailleurs... Emmanuel Macron a dit c'est légitime, il n'a pas employé le terme c'est légal, simplement il a dit nous étions 3 sur 5 du Conseil de sécurité, donc nous étions majoritaires. Mais ça, c'est pas les règles de fonctionnement de la Charte des Nations Unies. C'est censé être voté par l'ensemble du Conseil.
Normalement, une résolution doit être votée à une majorité de 9 sur 15.
Absolument, voilà. Donc, ouais. Est-ce qu'on peut faire quelque chose qui n'est pas légal mais qui est légitime? C'est une question presque de philosophie politique.
Direction Strasbourg, Yann, où Emmanuel Macron a prononcé un discours sur l'Europe devant les parlementaires européens. Anastasia Becchio.
À la sortie de l'hémicycle, les avis sur la prestation d'Emmanuel Macron sont partagés. À droite, Nadine Morano se dit déçue.
Je m'attendais, avec ce jeune président très passionné et qui a de grandes qualités oratoires, à ce qu'il puisse allier son sens de la parole avec des actes ambitieux. C'est pas ce que j'ai trouvé.
Parmi les priorités d'Emmanuel Macron avant les européennes de l'an prochain, la proposition de créer un programme européen pour financer les collectivités locales qui accueillent les réfugiés, la taxation des géants du numérique et la réforme de l'union économique et monétaire. Pour l'eurodéputé socialiste Emmanuel Morel, il y a un manque d'ambition.
Il a été convenu avec des propositions très rares. Rapport de force avec l'Allemagne nous est très défavorable et un président qui revoit ses ambitions à la baisse, c'est dommage.
Le rapport de force avec l'Allemagne n'est peut-être pas si défavorable que ça estime pour sa part l'eurodéputé Jean-Marie Cavada de l'Alliance des libéraux et des démocrates.
Les vrais sujets sont toujours sur la table. Oui, on a un ministre des Finances, oui, on a un budget. La chancellerie trouvera sans doute un moyen terme pour négocier parce que n'oubliez pas que ce que dit la CDU n'est qu'une jambe, si je puis dire, droite du gouvernement allemand qui a aussi une jambe jambe gauche qui va compter dans la coalition.
Avant le déplacement d'Emmanuel Macron à Berlin jeudi, le Parti social-démocrate allemand a rappelé à ses partenaires conservateurs de la coalition qu'il s'est engagé à soutenir les propositions de la réforme de la zone euro.
Anastasia le disait jeudi, le président français est allé à Berlin donc pour défendre sa réforme de la zone euro. Pour l'instant, rien de neuf.
Non, rien de très neuf, puisque la coalition allemande, gouvernementale allemande, a mis longtemps à se constituer. C'est dans la tradition allemande que d'avoir un accord de coalition écrit, extrêmement détaillé, etc. Et on ne sent pas effectivement qu'il y a un grand enthousiasme. Alors, à la CDU, sûrement pas. Enfin, peut-être Angela Merkel elle-même, mais en tout cas, beaucoup des membres de la CDU qui visent, semble-t-il, la succession de la chancelière, donc qui se placent plutôt en radical, ni à la CDU, donc, ni même au SPD, où il n'y a pas non plus un enthousiasme fou pour les mesures que propose Emmanuel Macron. Donc, effectivement, Emmanuel Macron aujourd'hui se trouve face à un problème tactique, je dirais. Il n'avait pas anticipé que les élections allemandes auraient ce résultat-là. Il pensait, comme beaucoup de gens, que Angela Merkel serait réélue tranquillement dans un fauteuil, qu'il n'aurait pas beaucoup de concessions à faire. Et en fait, si elle a été obligée de négocier, elle est en position d'affaiblissement. On peut penser qu'il n'y aura pas de mandat suivant pour Angela Merkel. Donc, c'est le principal allié, le fameux moteur franco-allemand, est un peu en panne. Mais ce qui m'a frappé dans le discours d'Emmanuel Macron à Strasbourg, c'est cette expression qu'il a employée de guerre civile européenne. Emmanuel Macron dit souvent qu'il appartient à une génération qui n'a pas connu la guerre. Je pense peut-être qu'il faudrait qu'il aille faire un tour dans un pays qui connaît une vraie guerre civile actuellement.
Les mots ont un sens, effectivement,
une guerre civile. Et alors, s'il a dit une sorte de guerre civile, je crois, mais quand même, je pense qu'il faut faire attention à ce genre de métaphore. De même, il a employé une expression qui est très ambiguë en français, qui est démocratie libérale. Quand on dit démocratie libérale aux États-Unis, tout le monde sait de quoi on parle, c'est-à-dire l'état de droit, etc. Quand on dit libéral en France, ça a une connotation beaucoup plus économique et on entend néolibéral. Et je pense qu'effectivement, il faut faire attention. Et Emmanuel Macron, qui est plutôt un grand communicateur, par moment, dit des choses qui me semblent dangereuses ou contre-productives par rapport aux propos même qu'il veut défendre.
Alors revenons un instant à la Corée. Vous parliez, on a commencé avec ça. Yann, il y a un auditeur qui nous écoute à Yaoundé, qui s'appelle Yaha, qui se demande ironiquement, je ne sais pas si c'est de l'ironie d'ailleurs, si Trump n'a pas été intimidé par le jeune dirigeant coréen.
Intimidé, non, mais Trump est très convaincu, je crois, parce qu'il a fait son fameux livre qui s'appelle L'Art du Deal, donc pour faire montrer comment est-ce qu'il faut négocier en affaires. Je pense que Donald Trump est très convaincu qu'il faut une sorte de dialogue viril avec un partenaire potentiel pour le faire céder, le convaincre, le séduire, l'intimider, etc. Donc il veut y aller à la virile, si je puis dire. Il veut faire sa confrontation avec le turbulent jeune leader nord-coréen qui, lui, doit être assez flatté, probablement, de pouvoir, comme ça, se trouver tout d'un coup à égalité avec le président de l'hyperpuissance. La Corée du Nord, c'est un pays potentiellement dangereux, mais c'est quand même un petit pays plutôt pauvre. Ce qu'il a de dangereux, ce sont armement, mais sinon, c'est pas une puissance très impressionnante.
Sept jours en France.
Nous continuons notre voyage, nous quittons le monde pour retrouver un instant la France, nous allons faire étape à Paris, avec d'abord, Yann, le vote en première lecture mardi à l'Assemblée nationale de la loi sur la réforme de la SNCF, Anthony Lattier.
C'est un numéro d'équilibriste que s'est livré le député Jean-Marie Sermier pour justifier le soutien de la droite à la réforme. Après une charge contre la méthode du gouvernement et le manque d'ambition du texte, il conclut.
Mais les députés des Républicains ne sont jamais en posture politicienne. Ils n'ont pour boussole que l'intérêt de la France. Et dans ce sens, les Républicains voteront favorablement pour ce texte.
Seuls deux députés Les Républicains ont voté contre, dont Julien Aubert.
On ne peut pas être d'accord sur tout à tout le moment. Et on le vit très bien parce que Laurent Wauquiez, d'ailleurs, nous a dit qu'il respectait la diversité des opinions.
À part cela, les votes contre viennent pour la plupart de la gauche. Le député communiste André Chassaigne s'en remet à la rue pour faire plier le gouvernement.
Il faut qu'aujourd'hui, le mouvement social prenne de l'ampleur. Ça ne se réglera pas par la voie parlementaire, puisque le gouvernement est imperméable à toute évolution de son texte. Donc il n'y a qu'un élargissement de la lutte qui permettra de faire bouger les lignes.
Du côté de la majorité, le texte est passé sans encombre. Rien à voir avec le projet de loi asile-immigration débattu en ce moment et qui met à mal l'unité des marcheurs.
Et on vous parle dans les journaux de la discussion de cette loi sur l'immigration. La loi, en tout cas, doit être examinée maintenant par les sénateurs. Là, je vous parle de la SNCF. Déception à Nantes, mercredi, à l'issue d'une réunion entre le ministre de l'écologie, Nicolas Hulot, la préfète de la Loire-Atlantique et des représentants des occupants de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Reportage d'Alexis Bédu.
Le dialogue a repris, mais le sentiment général, c'est que ça n'avance pas beaucoup. À la sortie de la réunion, la délégation d'occupants illégaux de la ZAD a expliqué que leur demande avait été refusée par Nicolas Hulot et la préfète de Loire-Atlantique.
On a abordé le sujet de la convention globale qu'on a présentée vendredi, la veille des expulsions. Ils ont fait un refus. Juridiquement, ils n'ont rien pour dénoncer ce qu'on leur a proposé. C'est quelque chose qui existe, qui est faisable. C'est vraiment une idéologie politique. Ils ont refusé sur le côté politique notre projet collectif de convention globale de gestion du territoire.
Le ministre de la Transition écologique s'est montré plus optimiste. Il demande aux zadistes de saisir la main tendue de l'État.
Ne ratons pas la dernière étape. Ne rentrons pas dans une spirale de posture, de confrontation et de violence. Ne confondons pas écologie et anarchie. Il faut aussi savoir reconnaître les gestes qui ont été faits. J'ai le sentiment que tout le monde comprend que ce que réclame le gouvernement ne semble ni hors de portée, en quoi que ce soit, ne s'apparente à un ultimatum. Simplement, à un moment ou à un autre, un retour à la raison.
Alors avant de vous retrouver Yann Mince, revenons sur l'entretien d'un genre inédit, c'est le moins qu'on puisse dire, dimanche soir, sur la chaîne de télévision BFM et sur le site Mediapart, entretien du président Macron avec les journalistes Jean-Jacques Bourdin, Edoui Plenel, Valérie Gasse.
C'est sur la forme que cette interview aura été marquante. Le chef de l'État savait, en choisissant de répondre aux questions de Jean-Jacques Bourdin et Edoui Plenel, qu'il serait malmené. Il était prêt à en découdre et n'a rien laissé passer, et notamment cette attaque directe de Jean-Jacques Bourdin.
Il y a ce que fait votre ami Bernard Arnault.
Pardon, moi j'ai pas d'amis, monsieur Bourdin. Ni vous, ni moi. N'êtes pas des juges autour de cette table. Vous êtes des intervieweurs. Je suis le président de la République et nous sommes en train de faire un débat démocratique.
Je ne suis pas là pour juger tel ou tel.
De là où je suis, a souvent dit Emmanuel Macron pour rappeler que c'était lui, le président de la République, et pour dénoncer ce qu'il a appelé parfois des contre-vérités, notamment lorsqu'il était interpellé par Edoui Plenel.
Est-ce une question ou un plaidoyer ?
Non, c'est une question.
Elle a les tournures d'un plaidoyer. Donc si non. C'est une question...
C'est une question. Il n'y a jamais de mauvaise question, Emmanuel Macron.
Mais il n'y a jamais de mauvaise question, mais il peut y avoir des questions orientées.
Emmanuel Macron a accepté cette contradiction parfois vindicative pour avoir l'occasion de montrer qu'il ne la craignait pas. Il a obtenu ce qu'il était venu chercher, un combat, un match de boxe où il n'y a pas eu de chaos, mais où il a essayé de gagner au point.
On va revenir sur ces différents sujets. On va commencer avec le climat social. Hippolyte, qui nous écoute à Cotonou, se demande si le président Macron peut aller jusqu'au bout de ses réformes.
Le problème du président Macron, je pense, à cet égard, c'est qu'il en a lancé plein des réformes à la fois. Et que, effectivement, je ne sais pas s'il peut y avoir une fusion des luttes, pour reprendre le vocabulaire syndical.
Mais il a dit non. Emmanuel Macron a dit hier, en Conseil des ministres, il n'y a pas de convergence des luttes.
Oui, c'est ce qu'on appelle du wishful thinking en anglais. Ouais. Il prend son désir pour des réalités. Il peut y avoir, à défaut d'une fusion d'élites, il peut y avoir une convergence des mécontentements. C'est-à-dire que tout le monde soit mécontent en même temps et que ça finisse par peser sur l'image du président. Effectivement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de convergence directe entre, par exemple, les personnels des EHPAD, donc les maisons de retraite, pour le dire rapidement, qui ont effectivement des soucis importants, avec les cheminots qui défendent un statut et qui disent que ce ne sont pas eux les responsables, et leur statut non plus, leur responsable des difficultés de la SNCF, mais plutôt les investissements très lourds sur le TGV, sur des lignes peut-être pas toujours rentables ou utiles, et puis par ailleurs les étudiants qui, eux, refusent, ou certains d'entre eux, refusent le mode d'entrée à l'université qui voudrait être instauré par la réforme. Donc tout ça n'a pas beaucoup de rapport entre eux, sauf que, évidemment, ça vient du gouvernement. Donc, le simple fait que beaucoup de réformes viennent ensemble, que beaucoup de gens se sentent concernés par ces réformes, ça peut amener, effectivement, un front, non pas commun, mais en tout cas, un alignement des mécontentements. Oui. Et ça, c'est dangereux pour Emmanuel Macron.
Il y a quelquefois des images troublantes. L'évacuation du site de Tolbiac hier matin, à 50 ans de mai 68, alors, ça rappelle...
Effectivement, il faut que les autorités gouvernementales françaises se méfient des réactions parfois, je dirais pas épidermiques, mais les étudiants et les enseignants, si certains anciens sont extrêmement sensibles à ce qu'on appelait les franchises universitaires, sur le fait qu'il y avait une espèce de droit dans l'université, et ça existe dans d'autres pays. Malheureusement, on voit des campus qui sont effectivement envahis par la police dans d'autres pays aussi.
L'université est considérée comme une bulle, en quelque sorte.
Voilà, comme une bulle où on peut s'exprimer. Et il faut faire très attention, parce que même des étudiants qui ne partagent pas forcément les revendications de ceux qui critiquent la réforme dont je parlais, peuvent, par réflexe... par solidarité, disons, avec cette idée qu'on peut à l'université s'exprimer, et y compris contester, et y compris empêcher l'examen, peuvent se montrer solidaires. Et en 68, il s'est passé une partie de ça, quand même.
Ouais, vous allez suivre ces commémorations de 68, ou pour vous, ça ne correspond à rien?
Je suis pas très passionné par les commémorations en général, et puis
il y en aura-t-il d'ailleurs, il y a beaucoup de livres, beaucoup de documents,
Livres, je sais que certains acteurs comme Daniel Cohn-Bendit s'expriment peu, enfin ils s'expriment pour dire qu'ils veulent plus s'exprimer, une façon de s'exprimer un peu quand même. Non mais surtout 1968, c'est pas la guerre de 14-18. La guerre de 14-18, il y a eu des millions de morts, commémorant leurs souvenirs. Là, 68, c'est un mouvement important, mais pour moi ça n'est pas du tout du même ordre qu'un conflit où effectivement on se souvient de gens qui ont payé de leur vie.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, donc, merci pour vos messages. Continuez à nous écrire. Un salut à Tidiane à Conakry, à Christine à Cotonou. Je salue également Géry à Kinshasa et trois auditeurs de Dakar, Bachir, Bekaï et Draman. Je n'oublie pas Ya à Yaoundé, Roger à Kisangani. Je n'oublie pas non plus Renaud à Soutoubouya. Il salue sa famille et ses amis à Lomé, sa cousine Pamela à Dakar et ses responsables hiérarchiques, dit-il. Je n'oublie pas non plus Titus Longin Folie, qui est directeur de publication du journal L'Afrique en marche au Bénin. Et moi aussi, en saluant Mokhtar qui nous écoute, lui, à Richard Toll au Sénégal et qui aime beaucoup les interventions de Yann Mince.
Partons, je remercie Mokhtar.
Partons pour l'Afrique maintenant, justement, Yann. Au Niger, d'abord, après l'arrestation dimanche de trois nouvelles figures des mouvements qui contestent la loi de finances 2018, Gaël Lalex.
Nous avons des lois, si les appliquer c'est de la répression, alors nous l'assumons. Mohamed Bazoum n'a pas mâché ses mots pour commenter les arrestations de dimanche. Pour le ministre de l'Intérieur nigérien, joint par RFI, la situation est claire. Les opposants à la loi de finances n'ont trouvé là qu'un prétexte pour tenter de renverser le gouvernement. Leur stratégie, organiser des manifestations la nuit alors que les conditions de sécurité ne sont pas réunies, obliger ainsi les autorités à interdire et faire monter la pression. C'est l'insurrection qu'il cherche, s'emporte Mohamed Bazoum. Pourquoi devrait-il se mobiliser de nuit plutôt que de jour, conclut le ministre, qui rappelle que jusqu'à présent, toutes les manifestations de jour ont été autorisées. Un raisonnement tordu, selon la société civile nigérienne, qui brandit la Constitution. C'est la loi fondamentale, elle nous accorde le droit de manifester, valable de jour comme de nuit, nous a confié Maman Kakatouda. Ce responsable de la jeunesse d'Alternative Espace Citoyen estime qu'il y a dans l'interprétation de la loi deux poids deux mesures, alors que la société civile était interdite de manifester le dimanche 25 mars pour des raisons de sécurité, le parti présidentiel, lui, organisait son congrès.
Suite d'une semaine en Afrique, le gouvernement malien a annoncé dimanche que des poursuites ont été engagées à l'encontre d'un maire ayant ordonné au peuple de quitter sa commune du centre du pays, une région où des dizaines de personnes ont péri dans de récents affrontements entre les communautés peul et dogon. Face à ces tensions, les deux camps veulent plus que tout la réconciliation, comme nous l'a dit mardi Serge Daniel.
Le à son chapeau de berger peul, il s'appelle Ibrahim Dikon, président de la jeunesse est habité à la Polakou. L'autre, son couvre-chef en cotonnade, il s'appelle Casimir Somboro, président de l'association de la jeunesse Dogon. Ils sont tous du centre du pays et demandent qu'on évite les amalgames.
Nous sommes des voisins et nous resterons des voisins.
Vous êtes Dogon, vous confirmez?
Oui, je suis Dogon, je confirme. Donc dire que tout Dozo est Dogon ou bien tout Yaris est Peul, c'est ça l'amalgame en vrai dire.
Il ne faut pas le faire.
Il ne faut pas le faire.
Pour faire baisser la tension sur le terrain, ils vont entreprendre une campagne de sensibilisation. Ils expliquent.
Donc je vais les parler, bouche à oreille, les faire comprendre qu'aujourd'hui on a besoin de la paix, on a besoin de la cohésion, on a besoin de bâtir notre société ensemble comme dans le passé. Aujourd'hui, jeunes Dogon, jeunes Peul, on doit s'élever pour un Mali uni, un Mali de paix, un Mali prospère. C'est ce que nous, les jeunes Dogon et Peul, doivent faire. On a d'autres problèmes à résoudre qui n'est pas des entretiens entre nous.
Mais la sensibilisation seule ne suffira pas. Ils disent à l'unisson qu'il faut que dans cette partie du Mali, il y ait une meilleure gouvernance. Ils ajoutent, l'État est enfin sur la bonne voie.
Alors Peul et Dogon, main dans la main au Mali.
Je pense que si le Mali va retrouver la paix, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que ce genre d'initiative. J'aime beaucoup l'expression de ce responsable qui était interviewé, qui parlait de bouche à oreille. Il allait le convaincre de bouche à oreille. À l'époque des réseaux sociaux, je pense que c'est une très bonne idée de convaincre de bouche à oreille. C'est vraiment, j'allais dire presque les yeux dans les yeux aussi. C'est-à-dire qu'il faut effectivement aller voir des gens qui, pour des raisons parfois compréhensibles, parfois un peu moins, sont crispés, inquiets, angoissés, voire qui ont des sentiments des volontés de vengeance, de haine, etc. Et leur expliquer que c'est pas une bonne idée pour la coexistence de tout le monde et pour l'avenir. On peut pas éliminer un adversaire et ni les Dogons ni les Peuls ne disparaîtront du centre du Mali comme ça. Donc ce genre d'initiative est beaucoup plus important à terme. Très compliqué, ça demande un engagement des individus qui s'y emploient extrêmement important, mais c'est évidemment beaucoup plus porteur d'espoir que toutes les interventions étrangères, tous les programmes financés par les Nations Unies ou de façon bilatérale. En gros, pour le dire court, ce sont les Maliens qui se réconcilieront. Personne ne réconciliera les Maliens contre leur vie, même en y mettant beaucoup d'argent.
Parce que les tensions demeurent au Mali, on l'oublie. Hein.
Bien entendu, les tensions demeurent au Mali et elles ont même glissé vers le centre du pays, alors qu'à l'origine, elles étaient plutôt au nord. Et aujourd'hui, on les voit très actives au centre. On voit aussi une sorte de diffusion de la violence. Avant, elle était quand même concentrée plutôt au nord. Là, maintenant, elle a diffusé aussi au centre du pays. C'est un éclatement très inquiétant. Et je crois que c'est ce type d'expérience, enfin, ce type d'initiative qui fait que les acteurs locaux peuvent entraver et éviter que ça devienne une boule de neige et que ça devienne incontrôlable.
Alors, tension d'un autre ordre cette fois, mais tension quand même au Niger.
Oui, le Niger est un pays qui est au centre de beaucoup de préoccupations, alors du coup de pays étrangers, pour des raisons sécuritaires, là encore à cause des mouvements djihadistes comme au Mali, et aussi évidemment parce que c'est un des lieux de transit des migrants subsahariens de différentes origines qui remontent vers la Libye et puis ensuite vers l'Europe. Le Niger est surveillé, je dirais, un peu comme le lait sur le feu, à la fois par les Américains pour des raisons liées au terrorisme, par les Européens pour celles-là aussi, et pour les migrations. Du coup, est-ce qu'il y a une sensation des autorités nigériennes qu'elles peuvent faire un peu ce qu'elles veulent sur en matière de sécurité intérieure et qu'elles ne seront pas inquiétées ou qu'on leur fera pas de remontrances? C'est possible. On le voit de façon exacerbée au Tchad, où Idriss Déby se sent maintenant... ça fait longtemps qu'il se sent beaucoup de liberté, mais là, il s'en sent encore de plus en plus.
En route pour la 4e République.
Voilà, absolument. Pour le pouvoir à vie. J'espère que le président nigérien, Issoufou, n'est pas sur la même trajectoire, parce que le Niger était jusqu'à maintenant une expérience assez réussie d'alternance au Sahel avec des élections, sûrement avec leurs imperfections, mais quand même, avec des élections, une alternance, un jeu électoral. Et c'est ça qui est important. Et il ne faut pas que ça s'abîme.
Une semaine d'actualité.
Direction le Sénégal maintenant, Yann, où les réfugiés mauritaniens continuent de demander le droit de rentrer au pays. Ils se sont fait entendre cette semaine à Dakar, Lou Garçon, mardi.
Dans un an, le Mauritanien Aldioma Sissoko aura passé 30 années sur le territoire sénégalais, mais il ne se sent pas plus citoyen du Sénégal que ce 7 mai 1989, date à laquelle l'ancien fonctionnaire de l'administration maritime est déporté vers le Sénégal par avion, en même temps que des dizaines de milliers d'autres Mauritaniens originaires du sud du pays.
On nous accusait d'être des Sénégalais qui sont venus chercher du travail, alors que ma mère est mauritanienne de la 4e région qu'on appelle Kaïdi. Mon père est mauritanien de la 4e région qu'on appelle Dioul. Donc c'était une aberration. Ce qu'il fallait, c'est casser du noir. Il fallait vraiment dégarnir la population négro-mauritanienne.
Aldioma Sissoko est le coordinateur des organisations de réfugiés mauritaniens au Sénégal. De 1992 à 2008, des groupes de réfugiés ont commencé à rentrer dans leur village mauritanien. Mais les conditions de retour de ces rapatriés ont dissuadé Aldioma Sissoko et plusieurs milliers d'autres Mauritaniens de rentrer chez eux. Avant de poser le pied dans leur pays, ils veulent être sûrs qu'ils pourront notamment récupérer leurs terres.
Et qu'il y ait remboursement des dommages que les gens ont eu à subir. Et surtout, qu'il y ait justice. Parce qu'il y a des gens que l'on connaisse. Sont les bourreaux.
Depuis fin 2016, les papiers de ces Mauritaniens en exil forcé au Sénégal sont arrivés à expiration. Voyage, travail, études, leur statut d'apatride les condamne à vivre au banc de la société sénégalaise. Tout en refusant d'acquérir la nationalité de leur pays d'exil, ils réclament de véritables pièces d'identification et la fin du silence qui entoure leur existence au Sénégal.
Partons pour la République démocratique du Congo maintenant, où on prépare le scrutin du 23 décembre prochain. Yann, vous le savez, vous l'attendez, avec par exemple un audit de la future machine à voter, critiquée à la fois par l'Église, une partie de l'opposition et des représentants de la société civile, Léa Lisa Westerhoff.
En février dernier, la conférence épiscopale congolaise avait recommandé à la commission électorale de faire certifier ces machines à voter par des experts nationaux et internationaux. Une façon de disperser les suspicions que son utilisation a suscité dans la population congolaise et d'éviter que les élections soient contestées d'avance. Pour le président de la commission électorale, Corneille Nanga, cet audit doit justement servir à cela.
Il y a des gens qui appellent la machine à voter machine à tricher. En fait, l'audit va consister à dire si ça triche ou ça ne triche pas. Si c'est fiable ou pas. Est-ce que le logiciel, comment il est synchronisé, c'est tout.
Fiabilité, risque de panne, tous les éléments techniques de cet ordinateur à voter devraient donc être examinés. Pour l'heure, les termes de référence de cet audit sont encore en cours d'élaboration. Aucun expert n'a donc encore été identifié pour mener cet examen. Reste une question auquel cet audit risque de ne pas pouvoir répondre, celui du temps dont chaque électeur aura besoin pour voter. Avec une forte proportion de Congolais qui ne savent ni lire ni écrire, nombreux sont ceux qui s'inquiètent d'un embouteillage le jour du vote du fait de l'utilisation d'un ordinateur pour voter.
Alors continuons notre voyage africain avec vous, Yann Mince. La Mauritanie d'abord, et ces réfugiés qui sont au Sénégal et qui demandent à rentrer dans leur pays. Situation insolite.
Oui, et puis ça fait surtout, j'ai mesuré que ça faisait déjà 30
plusieurs
ans.
Plusieurs décennies.
Oui, ça faisait déjà 30 ans. Je me souviens des affrontements à l'époque et des tensions en Mauritanie à ce sujet-là. Et effectivement, moi, j'avais un peu oublié, je dois avouer, qu'il y avait encore un nombre important de réfugiés mauritaniens au Sénégal. Je connais pas suffisamment le dossier à détail pour en parler savamment. Je note simplement une chose, c'est que ça pose le problème indirectement de l'état civil dans des pays comme ça, parce que l'un des réfugiés interviewés disait, mais mon père est de tel endroit, ma mère est de tel endroit, etc. Donc je suis de là. Cette question de l'état civil est très très importante, parce qu'effectivement c'est ce qui permet à des gens de prouver qu'ils sont bien du pays où ils résident et qu'on peut pas les en expulser du jour au lendemain en disant vous venez du pays d'à côté. Idem pour les titres fonciers. C'est très compliqué en Afrique de prouver qu'on est possesseur ou propriétaire d'une terre. Ça pose des problèmes très compliqués parce que souvent la terre est attribuée de façon collective, de façon provisoire, et que si on arrive là-dessus avec du droit occidental, avec des titres de propriété, on fige quelque chose qui était beaucoup plus souple. Et là, on arrive au conflit entre un système juridique qui avait sa propre logique et un système aujourd'hui d'État plus formel. Et je crois qu'on n'a pas le choix d'aller vers un système de plus en plus formalisé, justement parce que c'est protecteur de gens qui ne peuvent pas être expulsés ni de leur pays ni de leur terre du jour au lendemain par un État qui dit prouvez-moi que vous êtes bien qui vous êtes et que vous êtes bien le possesseur de ce bout de terrain.
Ce qui veut dire qu'on peut être réfugié et pas simplement à cause de la guerre. Là, c'est une situation très ancienne.
Oui, bien sûr.
Qui s'est installée.
Bien sûr, et on sait qu'il y a toujours eu du côté d'une partie du régime mauritanien, en tout cas, une sorte de xénophobie organisée contre une partie de la population qui était noire ou qui était présumée être plus africaine qu'arabe, et que donc il y avait cette espèce de racisme institutionnalisé. J'ose espérer que la situation s'est améliorée, mais les victimes de ces tensions passées, ce sont ces réfugiés qui sont encore au Sénégal aujourd'hui et qui voudraient rentrer dans ce qui est leur pays.
Alors la République démocratique du Congo est la machine à voter, qui est au cœur de toutes les préoccupations pour le moment.
Oui, je suis partagé sur cette histoire de machine à voter. Effectivement, ça peut apparaître a priori comme un progrès, comme quelque chose de plus fiable. Peut-être qu'il est plus difficile de tripatouiller une machine électronique. Qu'il n'est facile de glisser, de bourrer des bulletins classiques dans une urne. Peut-être. Encore faut-il que la machine fonctionne. Encore faut-il que les gens soient en état de s'en servir, que ça ne retarde pas les opérations de vote, et surtout que cette polémique ne retarde pas la date du scrutin. C'est-à-dire, on avait déjà eu l'élaboration des listes électorales, on avait eu l'élaboration des règles électorales, maintenant on est sur les machines à voter. Moi ce que je crains, c'est que le pouvoir congolais organise comme ça des entraves de fait, pas des entraves de droit à l'organisation du scrutin, parce que tant que le scrutin est repoussé, le président Kabila reste au pouvoir.
Oui, parce qu'on sent que l'Église, une partie de l'opposition et ce qu'on appelle les représentants de la société civile s'impatientent et sont pour le moins sceptiques pour le moment.
On est toujours pris dans ces cas-là entre deux exigences contradictoires. Est-ce qu'on veut que le scrutin se tienne le plus rapidement possible pour que effectivement la prorogation du pouvoir de celui qui est en place et qui a bien envie d'y rester s'arrête? Ou bien, est-ce qu'on veut un scrutin qui soit équitable, juste, fiable, crédible? Et à ce moment-là, effectivement, le pouvoir peut trouver des entraves techniques et repousser le scrutin jusqu'à plus soif. Et là, honnêtement, je pense qu'on est dans cette idée qu'il y a une promesse d'avoir un scrutin, mais qu'il faut qu'il se tienne dans de bonnes conditions.
Yann, j'ai une autre question d'un auditeur qui s'appelle Jonas et qui nous écoute à Lubumbashi, justement, en République démocratique du Congo. Lui se demande, on change de sujet, pourquoi les leaders libyens ne se mettent pas autour d'une même table afin de sauver la Libye? Je le cite.
Parce que la question, c'est de savoir qui sont les dirigeants libyens.
Il y en a déjà un qui est mal en point. Hein.
Alors, on a d'une part un gouvernement qui est reconnu par, en tout cas, les Nations Unies, sinon la communauté internationale dont je parlais tout à l'heure.
Avec la guillemets qui convient.
Voilà. Donc, de Fayez al-Sarraj, qui siège à Tripoli. Mais ce gouvernement a cet inconvénient. Il a l'avantage d'être reconnu. Il a l'inconvénient qu'en fait, il n'a pas le contrôle effectif du terrain, notamment le contrôle militaire. Le contrôle militaire, il est entre les mains de grandes milices, de grandes villes, comme Misrata, par exemple, une des plus puissantes, des milices qui sont aussi de Tripoli, des milices d'autres villes, Bani Walid, etc. Donc tous ces gens-là contrôlent du terrain et le gouvernement n'a qu'un contrôle, comment dire, un peu théorique de la moitié ouest du pays. Et de l'autre côté, c'est un pouvoir militaire essentiellement du général Haftar, qui est un ancien militaire de temps de Kadhafi, qui a été en rupture avec Kadhafi, en exil longtemps, qui est revenu et qui maintenant voudrait bien imposer un pouvoir un peu à la Sissi en Égypte, c'est-à-dire un pouvoir d'homme fort, pas trop contesté. Et le général Haftar, visiblement, a eu un accident de santé assez grave. Il est en traitement à Paris. Il y a eu des rumeurs sur sa mort. Personne ne sait très bien dans quel état il est et dans quel état il sera. C'est-à-dire, est-ce que son accident de santé va être durable? Et ça handicape en partie ce que voudrait faire notre auditeur, c'est-à-dire une rencontre entre les dirigeants. Parce que déjà, du côté du gouvernement Sarraj, il faudrait mettre Sarraj, puis des chefs de milice, parce qu'effectivement, ce sont eux qui ont la réalité du pouvoir. Du côté Haftar, il faudrait mettre Haftar, mais il n'y a plus d'Haftar, pour l'instant, en tout cas provisoirement, disponible. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer de l'autre côté. Je passe l'idée qu'en fait, il y a en plus deux parlements rivaux, un de chaque côté, et que donc ça complique encore l'équation. Donc, les dirigeants libyens, ça fait beaucoup de monde à mettre autour de la table, avec des intérêts divergents. Je pense que ça finira par arriver, mais encore faut-il que chacun se résigne au fait qu'il n'aura pas, même s'il est le potentat suprême, qu'il aura effectivement tout le pouvoir et tout le contrôle.
Et rappelons que pendant ce temps-là, les migrants passent dans ce pays. Hein.
Bien entendu, les migrants passent, ils sont victimes d'horreurs dont j'ai pu entendre parler directement sur le terrain, puisque j'étais en février.
Fois, ouais.
J'ai pu rencontrer quelques-uns d'entre eux, j'ai pu entendre parler des traitements qu'ils subissent. Effectivement, ce sont souvent des horreurs qu'ils subissent, en autant toutefois qu'il y a à la fois des migrants qui viennent pour traverser simplement la Libye pour venir en Europe, et d'autres qui viennent comme traditionnellement, dont ils prennent longtemps, pour travailler en Libye, et il y a probablement des centaines de milliers, au moins des dizaines de milliers, probablement des centaines de milliers de migrants subsahariens qui travaillent, dans de mauvaises conditions peut-être, mais qui travaillent en Libye aujourd'hui.
Alors changeons totalement de sujet, on va essayer de terminer l'émission avec une note plus gaie. Note, c'est le mot, vous aimez toujours la musique?
Oui, ça c'est ad vitam aeternam.
Alors justement, terminons avec de la musique, cette émission, cette édition d'une semaine d'actualité, Yann, avec une semaine riche au Cap-Vert où ont eu lieu deux festivals, dont un qui s'appelle Atlantic Music Expo, festival qui continue jusque ce week-end. Reportage lundi de Guillaume Thibault.
C'est un trio de jazz venu du Luxembourg, le Reis Demut Wilting Trio, qui a eu l'honneur d'ouvrir cette cérémonie. L'Atlantic Music Expo, mix de conférences et de concerts, va donc durer 4 jours, un festival essentiel, mais qui a pourtant été à 2 doigts de disparaître quand, il y a 4 mois, le ministère de la Culture s'est désengagé. Les producteurs de musique de l'archipel ont alors décidé de créer une association dirigée par Augusto Veiga pour le sauver.
L'argent qu'on avait avant, cette année, c'est moins de la moitié. C'est très dur, mais on a beaucoup de qualité cette année et je pense que ça va être bien.
L'État capverdien est donc moins présent. Et si le ministre de la Culture n'est pas venu à la cérémonie d'ouverture de l'Atlantic Music Expo, le Premier ministre, Ulish Correa e Silva, était bel et bien présent et a rappelé que le gouvernement soutenait toujours le festival.
Non, il ne va pas disparaître. On a changé un peu la philosophie. C'est dans ce moment 100% privé. Le gouvernement est présent à travers une participation importante du fonds de tourisme, présent et très engagé.
L'Atlantic Music Expo édition 2018 est donc bien lancée et c'est le groupe de l'île de la Réunion, l'Indigo, qui a eu l'honneur de clôturer la cérémonie d'ouverture.
Alors, que pense le critique de jazz de ce que l'on vient d'écouter ?
J'en pense que j'aimerais bien que le fait qu'un trio de jazz luxembourgeois d'abord vienne au Cap-Vert, moi ça me ravit, parce que effectivement le Luxembourg est pas forcément le pays le plus connu pour sa musique.
Je suis sûr que vous aimeriez être au Cap-Vert en ce moment d'ailleurs.
Je détesterais pas effectivement être au Cap-Vert en ce moment. Donc ça c'est très bien, et puis c'est très bien aussi si les Africains ont l'occasion, le public africain je veux dire, a l'occasion d'entendre un peu plus de jazz qu'il en a l'occasion spontanément, parce que je pense qu'il y a pas beaucoup, c'est pas une musique extrêmement diffusée en Afrique. Il y a de très bons musiciens de jazz africains. n'y a pas beaucoup. Il y en a beaucoup en Afrique du Sud. Il y en a un peu dans d'autres pays comme ça. Il y avait un grand musicien, un joueur de kora, Nsaku Yate, que j'aimais beaucoup, qui malheureusement est disparu. J'aimerais bien qu'on voit un peu plus de musiciens de jazz. Mon espoir, c'est qu'on voit un peu plus de musiciens de jazz qui s'emparent des musiques africaines et qui en fassent autre chose en le mélangeant, en le mixant avec le jazz comme ils veulent. Il n'y en a pas encore beaucoup, je trouve.
Ça veut dire que les Africains sont un peu absents du jazz aujourd'hui ?
Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est probablement parce que il y a une la musique en Afrique est souvent une musique qui est associée à la fête, à la danse, j'ai le sentiment. Ah bon, évidemment, avant, à des cérémonies religieuses, etc., mais beaucoup à la danse, aux boîtes, aux endroits où on danse, etc. Et le jazz n'est plus une musique que l'on danse aujourd'hui. C'était le cas dans les années 30, dans les années 20, du temps d'Ellington, du temps de Bézi, du temps des grands orchestres qui se produisaient,
oui,
dans ce qu'on appelait le ballroom, c'est-à-dire les salles de danse. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Du coup, le jazz est devenu une musique qu'on écoute seul, sans danser. Je veux dire, j'ai le sentiment qu'en Afrique, peut-être je me trompe, beaucoup de mélomanes aiment pouvoir participer directement à la musique en dansant, et peut-être que le jazz ne s'y prête pas trop.
Alors, j'ai voulu choisir ce sujet, Yann, parce que pendant que nous parlons de semaine en semaine ou même de jour en jour dans les journaux sur RFI ou ailleurs, de crise, de guerre, de politique, la culture fait son chemin en Afrique.
Bien sûr, bien sûr.
Pas seulement dans les festivals, au quotidien.
Bien sûr. Alors, il y a deux sens au mot culture. Il y a la culture, les façons de vivre, les façons d'être, etc. Et puis il y a la culture au sens, les arts et les lettres, on va dire, quand on la
culture avec un grand cas.
Oui, c'est ça, voilà. Celle-là, bien entendu, elle fait son chemin en Afrique. On a, si on prend la littérature, si on prend le cinéma, on a de très grands noms aujourd'hui. Et dans les festivals, du coup, que ce soit le Festival de Cannes pour le cinéma ou quand on voit, par exemple, le succès de la littérature. Alors, j'ai l'impression que la littérature africaine anglophone a peut-être plus d'audience encore que la littérature africaine francophone. J'ai l'impression qu'il y a plus de prix internationaux pour des écrivains nigérians ou des écrivains ghanéens ou des écrivains au sud-africain, d'Afrique anglophone que d'Afrique francophone. Mais évidemment, la culture fait son chemin. Après, la question, c'est pour un État comme l'État capverdien, où est-ce qu'il met le peu d'argent qu'il a ? Il faut en mettre un peu partout. Et bien entendu, il y a des besoins extrêmement urgents, sanitaires, éducatifs, etc. Là, il faut mettre de l'argent. Qu'est-ce qui reste pour la culture ? Qu'est-ce qu'on consacre ? Quelle est la portion incompressible pour la culture ? Je pense que c'est un vrai sujet. Et avec le peu d'argent qu'on a, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait des bibliothèques ou est-ce qu'on fait des festivals ? Ça, c'est pas des problèmes spécifiquement africains. C'est des problèmes qu'on trouve, je pense, dans toutes les collectivités locales françaises, où effectivement, le maire se dit très bien, qu'est-ce qui réunit le plus de monde ? Le match de foot ou le concert de musique classique ? Évidemment, la réponse, elle est facile. Donc, il faut que ce soit une volonté des élus et de la population, que la population fasse pression pour ça, pour qu'il y ait de l'argent dans la culture, au sens arts et lettres, dans les pays africains, et que ce soit pas systématiquement la portion sacrifiée, parce que la culture, ça fait partie de l'existence. Moi, par exemple, je ne peux pas vivre sans musique, sans livres, sans cinéma. Pour moi, c'est inconcevable. Et je pense que la plupart des Africains sont comme moi.
Et malgré tout ça, la création africaine se porte bien dans tous les domaines.
Bien sûr,
y compris dans la littérature aussi.
Et dans des domaines que je connais beaucoup moins bien, par exemple, les domaines de la mode, de la création stylistique. On a évidemment vu des créateurs africains. Alors, le problème des créateurs africains, c'est que souvent, pour pouvoir travailler, pour pouvoir être connu, pour pouvoir être réputé, pour pouvoir vendre, il faut qu'ils exportent. Donc, au final, on les connaît mieux parfois, je sais pas, à New York, à Londres ou à Paris, qu'on a l'occasion de les voir peut-être en Afrique, aussi parce que leur création, et ça, il faut pas se leurrer, ça coûte de l'argent et ça peut pas forcément être à la portée de tout le monde. Il y a un côté parfois un peu élitiste dans la culture. Mais aujourd'hui, grâce notamment au numérique, on peut diffuser tout un tas de choses. En musique, c'est évident. En littérature, c'est évident. Avec des coûts très réduits. Et on sait à quel point l'Afrique est branchée aujourd'hui sur le numérique. Elle n'a pas besoin forcément d'avoir des librairies partout si elle peut lire sur des supports numériques.
Alors, une dernière question pour conclure cette émission. C'est la première fois que je la pose avec vous dans ce contexte. Comment se porte le jazz aujourd'hui ? On parlait du jazz à l'instant, mais de façon globale. On parle toujours de la crise du jazz.
Non,
en quelques secondes.
Il se porte bien parce qu'il y a beaucoup de jeunes musiciens. Il y a beaucoup de gens qui ont des idées. Ma petite inquiétude, c'est que je vais dans les concerts, je trouve qu'il n'y a pas assez de gens très jeunes. Et c'est une musique qui malheureusement souffre, et je crois vraiment que c'est à tort, d'une réputation d'être une musique compliquée, un télo cérébral. Je ne crois pas qu'elle le soit plus qu'une autre. C'est vrai qu'elle a perdu sa dimension un peu ludique, mais heureusement il y a des jeunes musiciens, ou moins jeunes d'ailleurs, qui lui font retrouver, et on a aujourd'hui des gens qui font des fanfares, des musiques de bal, etc., qui retrouvent cette veine un peu plus directe qu'avait le jazz à ses origines.
En tout cas, les festivals du Cap-Vert nous auront permis de parler culture dans cette émission, ce qui est rarissime.
Et bien,
droite d'ailleurs. Merci Yann Mince, journaliste au magazine Alternative Économique, et à bientôt.
À bientôt.
Dans quelques semaines. Une semaine d'actualité réalisée par Steven Hesley. Je vous retrouve demain pour le magazine Idées. Nous parlerons des passions diverses, les bonnes et les venimeuses aussi, avec nos deux invités, le professeur de philosophie Robert Maggiori et son élève, la princesse Charlotte Casiraghi de Monaco, qui ont écrit ensemble un livre sur ce sujet. Demain dimanche, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.